Bonjour et bienvenue dans l'émission « Les tisseuses et les tisseurs du vivant ». Cette émission est consacrée aux paysans et aux paysannes, aux artisans et aux artisanes, habitants et habitantes des Vosges, de la plaine aux montagnes. Ils et elles transmettent ou apprennent, se réapproprient des savoir-faire perdus, réinventent les traditions populaires. Ils et elles créent un monde plus juste, en cohésion avec leurs convictions écologiques, en symbiose avec les autres vivants. De leurs mains, ils et elles transforment la matière, tissent des liens entre humains et humaines, plantes et insectes, animaux et minéraux. Les tisseuses et les tisseurs du vivant, des métiers et des savoir-faire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Environ un tiers des agriculteurs et agricultrices partiront à la retraite dans les 10 ans qui viennent. En avril 2024, le projet de loi pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a été présenté en Conseil des ministres. Les solutions proposées sont jugées inadéquates et insuffisantes par Terre de Liens ainsi que par la coalition Installons des paysans. Aucune mesure concrète n'est présentée pour installer des paysans et des paysannes ou pour l'accès aux terres. Or, sans terre, pas de paysans, pas de paysannes. En avril, une coalition d'organisations paysannes et écologistes a publié une tribune dans Reporter. Il et elle exigent une loi qui prenne en compte la diversité des exploitations, la réalité de la crise environnementale et de la situation sociale des paysans et paysannes. Selon l'association Terre de Liens, seuls 10 à 15 000 agriculteurs et agricultrices s'installent chaque année. Or, il en faudrait 20 à 25 000 pour assurer la relève agricole. Mais certains maraîchers et maraîchères parviennent tout de même à s'installer, suite à des coups de chance, des recherches persévérantes et une entraide de la part d'autres agriculteurs et agricultrices. C'est le cas d'Ariel et Valentin, installés à Usemain, à la ferme du Petit Paris depuis environ 3 ans. Ils et elles produisent des plants maraîchers bio et vendent des légumes bio dans les Vosges. Nous avons visité leur ferme et rencontré Philippe, ancien maraîcher bio à la retraite qui les a beaucoup épaulés lors de leur installation en plants. Avec sa femme, Jacqueline, il et elle leur ont transmis leur savoir-faire et leur serre. Ariel est co-trésorière et Valentin co-secrétaire de la Confédération Paysanne des Vosges. Il et elle défendent une vision écologique et paysanne de l'agriculture, un respect et une connexion au sol, aux plantes et aux vivants qui nous entourent. Je vous laisse les écouter partager leur passion pour ce monde parfois rude, mais où le soleil brille pour tout le monde.
Là, il y a 5 planches de carottes et des betteraves rouges à gauche. Et là, il reste 2 planches de libre, c'est pour les derniers trucs. Donc là, ce qu'il nous reste encore à mettre, c'est courgettes, concombres et haricots. Les premiers haricots qu'on met sous tunnel, comme ça on a beaucoup plus tôt. Et donc voilà. Ce midi, j'ai déterré une toute petite carotte, la taille d'un stylo. Là. Et avec Ariel, on se fait partager. C'était la première carotte, elle était bonne.
Elle était bonne.
C'était la meilleure. Alors, je suis Valentin Milan, maraîcher bio à Usemain. J'étais informaticien avant et avec Ariel, ma compagne, et ben, on a décidé de changer de vie et de devenir paysan.
Je m'appelle Ariel, je travaille donc à la ferme du Petit Paris et je produis des plants maraîchers pour les particuliers en agriculture biologique et paysanne.
Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça?
J'ai commencé en 2022, donc c'est ma troisième saison là.
Moi j'ai une question perso, pourquoi Petit Paris, c'est le nom du...
C'est, alors quand on l'a acheté, on regardait un peu les cartes hygiène et tout ça, et en fait sur les cartes hygiène, il y a le lieu dit, le Petit Paris, qui est mis juste là. Et donc du coup on s'est dit... Donc du coup au début je partais sur la ferme du Petit Paris, parce qu'en plus j'étais à Courcelles-Chaussy, donc il fallait un peu se projeter dans un projet, même s'il était faux. Pour faire comme si, pour le dossier de fin d'année, de se projeter sur une ferme. Même si c'était une ferme d'un voisin ou quoi, mais pour dire, voilà, d'avoir un projet, de faire comme si on allait le mettre jusqu'au bout. Donc moi, je dis, bah, mon projet, je vais faire ici. Du coup, j'ai créé le nom, la ferme du Petit Paris. Okay. Puis après, on dit la ferme du Petit Paris, mais sans vraiment dire, est-ce qu'on restait là-dessus. Ariel, au début, Elle fait non, mais on n'a jamais vraiment réfléchi à un nom, et puis en fait, ben, en fait c'est resté. Mmh. Donc voilà.
C'est souvent ça l'histoire des noms, j'ai l'impression.
Bah ouais, c'est. Mais et au final, je suis super content parce que c'est un nom que les gens retiennent. Mmh. Des fois, il y a des noms de ferme, on fait merde, c'est quoi le nom? La ferme du Petit Paris, ça se retient facilement. Tu vois, de Paris, paf, paf, tu retiens. Et donc, moi, je suis assez content de ça. C'est un nom qui se retient très facilement.
Avec
donc,
la bâtonnière
ouais. Je suis vraiment
non,
content.
Non, c'est pour mélanger le terreau. On mélange deux terreaux et on met un peu d'engrais organique. Et du coup, on le met dans la bétonnière, comme ça, on le mélange bien. Et avant de le remettre dans des pots et repiquer dedans, etc. Donc, bah, tout ça, c'est un. Bah, on va regarder le magasin à côté. Et quand on ira chez le voisin, je vous expliquerai. On ira voir chez le voisin. Et je vous expliquerai un peu parce que du coup, c'est une belle histoire. Hier encore, on l'a rencontré à quelqu'un à Roland Bio. Et qui nous disait, mais moi j'aurais rêvé que ça m'arrive ce truc là.
Un coup de chance.
Un coup de chance, ouais. Franchement, mais en gros, on cherchait nous un terrain pour s'installer. Et c'était assez difficile quoi, trouver du terrain. Du coup, un moment on trouve dans les Vosges ici. Et un moment on se dit, ok, on veut s'installer là, mais avant ça, on va regarder autour si les maraîchers, si machin sont. Nous voient d'un bon oeil quoi. Donc on était, j'étais me présenter à côté. Et première réponse qu'il m'a fait, c'était « Le soleil brille pour tout le monde ». Donc l'accueil, là, on a fait « Ok, bon, allez, on signe pour la maison à côté, on sera bien accueillis ». Et deux jours-là, ils nous ont aidé des conseils et tout sur le maraîchage. Et puis quand ils sont partis en retraite, donc Philippe Delez a été voir Ariel, il fait « Mais écoute, nous on arrête, il y a personne qui fait du plan là, plus personne fait de plan à Ismain, il faut vous lancer dans le plan ». Et du coup, Ariel est parti dans cette activité-là. Ouais, non, je vais expliquer ceux-là qui le temps qu'ils reprennent.
Bon, si tu veux juste nous expliquer un peu ce que tu fais toi ici.
Ce que je fais moi, ouais. Bah, je fais des plans pour les particuliers, pour qu'ils puissent les repiquer au jardin. Donc on fait un petit peu de tout. Tout ce qui se fait dans les coins, donc ça va de la tomate au concombre, au poivron, courgette, aubergine. Un petit peu de fleurs et un petit peu d'aromatique. Là, il y a quelques fleurs, ça, c'est des hypomées, c'est des fleurs qui grimpent. Ça fait des belles fleurs bleues. Après, là, il y a les poivrons. Donc ça, c'est des poivrons qui vont être repiqués dans des pots un peu plus gros, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là-bas, il y a les courgettes, les concombres, les melons et les pastèques. Touk, 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 touk. Et de l'autre côté, oui, c'est beaucoup de fleurs. Ça, c'est du gazania. Et là-bas, ce qu'on voit, les fleurs rouges, c'est des cosmos.
Ouais.
Tout au fond, là-bas.
Ouais, ça, c'est trop beau. J'adore. Et donc toi, tu t'occupes de la partie plants, c'est ça?
Plants, ouais, majoritairement. Après, une fois que les plants sont terminés, à peu près à partir de fin juin, ouais, fin juin, il nous reste plus que des salades ensuite pour la fin de la saison et quelques choux. Je repasse avec Valentin sur les jardins. Mmh. Voilà.
Ok.
Donc c'est 3 mois bien intenses, puis après ça va mieux.
Et à la base, donc t'as fait une formation aussi pour les plants ou t'as appris ça un peu sur le tas?
Non, j'ai fait aucune formation. Enfin, j'ai un diplôme agricole à la base, mais c'était pas du tout horticole. J'ai appris, oui, un petit peu sur le tas. Et puis avec donc notre voisin qui est horticulteur, c'est eux qui m'ont transmis leur méthode. J'ai de la chance qu'ils me filent des coups de main encore aujourd'hui, de temps en temps, quand j'en ai besoin. C'est eux aussi qui me drive par rapport à l'arrosage, parce que l'arrosage, c'est quand même le truc peut-être le plus pointu et le plus important. Et puis voilà, quoi. Après, on voit, on fait, et puis on voit ce que ça donne. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, ben tant pis, on fera mieux la prochaine fois, quoi.
Mmh. Ouais, t'expérimentes, quoi. Tu vois ce qui marche, ce qui marche pas.
C'est ça. Après, j'ai pas trop changé les méthodes que les horticulteurs d'à côté avaient, parce que ben ça fonctionnait bien. Les gens d'ici étaient habitués, et du coup, on essaye de reproduire à peu près la même chose. Après, on y met notre petite touche à nous. Il y a des fleurs que faisaient que nous, on fait pas, parce qu'on juge que c'est pas... On veut pas faire exactement la même chose quand même. Et puis par rapport au problème de l'eau aussi, il y a des fleurs que je décide de pas faire, parce que je trouve qu'en fait, c'est plus ornemental, et je préfère faire des fleurs qui s'accommodent bien au jardin et qui vont bien avec les légumes et qui sont utiles aussi bien au niveau des légumes que aussi des abeilles, etc. Mmh. Voilà.
Ouais, donc tu choisis des plantes pour pollinisateurs un peu,
C'est ça, des plantes mellifères, des plantes qui peuvent se manger, qui sont comestibles en plus d'être jolies et qui s'associent bien avec certains autres légumes. Voilà.
astinoi Žena me ne zanili S djecova pa mi ja dni ne pije Mili, eta ti ili Ek raz, da išo raz Išo mnoga, mnoga raza Ek raz, da išo raz Еще много-много раз Поговори же ты со мной Подруга семиструнная Вся душа полна тобой А ночь такая лунная Эх, краса, да еще раз Еще много-много раз Эх, краса Да еще раз, еще много-много раз.
Tu veux nous montrer la partie maraîchage ?
Eh ben on peut aller voir les plans, parce que le plan, en fait, c'est avec des cordeaux chauffants, etc. Et donc on l'utilise quand la partie plan me laisse un peu de place. Je mets aussi mes plans pour le maraîchage dessus pour qu'il pousse bien, etc. Et le maraîchage est collé, donc on pourra voir ça.
Que tu peux nous dire où on est un peu géographiquement
dans les Vosges ou dans Usma?
Oh, les deux.
Et ben dans les Vosges on est donc à Usma juste en dessous d'Épinal, au sud d'Épinal et à Usma et alors ici le c'est bien et pas bien. On est vraiment sur le point culminant de Usma. On est sur le point haut du village. Donc du coup on a tout le vent. Donc c'est en hiver, quand il y a les grosses tempêtes, eh ben, on a le vent. Mais ce qui est pas mal l'été, quand il y a les grandes chaleurs, au moins on a aussi un peu de vent qui vient et qui passe dans les tunnels pour les refroidir. Donc bon, on va dire qu'on est content quoi. Au moins ça refroidit l'été. Donc ici c'est la nurserie. Quand il y a l'école d'Usma qui vient nous visiter, pour les petits, je leur explique toujours avec les maternelles, CP, etc. Et ici c'est les maternelles. Et... Donc on met les petites graines qui sortent et tout ça, puis on les repique, et puis après on les met ici pour qu'ils deviennent des grands. Et donc là on voit tout ce qui a peur du froid, quoi. C'est ici, donc on a les tapes chauffantes. Donc en début de saison, on les met en température, surtout pour que ça germe, parce que pour germer, il faut de la température et l'humidité. Et si on n'a pas la température, et ben ça sort pas, donc on est obligé, dans les Vosges en tout cas, de chauffer un peu, donc on a des tables qui sont isolées avec des petites résistances en dessous.
Et les graines, vous les achetez ou vous les faites pas vous-même?
Non, ouais. On aimerait bien. Mais c'est, ouais, c'est du temps, c'est en ça, fait. Ouais. C'est du temps, c'est de la technique. Alors je fais partie d'un GU2E, bon là ça va faire un an et demi que j'y participe plus trop parce que j'arrive pas à avoir le temps. Mais sur les semences paysannes, parce que se rapproprier justement toutes les techniques. La création des semences, c'est... Alors, on a la Confédération Paysanne, et quand même, ce qu'on met en avant, c'est l'autonomie. Et dans l'autonomie, il y a l'autonomie aussi au niveau des semences, et pour nous, c'est important, quoi. C'est un truc qui est dans le coin de la tête, et qui reviendra au moment où, voilà, le temps qu'on maîtrise vraiment tout, les calendriers, les plans, c'est la troisième année. Donc ça va quand même mieux que les... Au début, on a un peu toute... l'avancée de la saison en tête, donc on sait à peu près comment ça se passait et tout ça, mais il y a encore des trucs à améliorer, et quand on aura bien tout amélioré, on aura du temps qui se dégagera, donc là on pourra commencer à passer à autre chose.
Ah oh, yes.
Et c'est ça que je disais, qu'on peut pas partir, là ouais. Il fait froid, hein. On est gelé, hein. Et on rentre ici, il fait super chaud, ouais. Donc t'imagines qu'il y a le soleil qui arrive en deux secondes, en fait ça monte à 40 degrés.
Donc là, il n'y a rien qui est chauffé en fait. C'est vraiment
là, c'est pas chauffé. Alors il y a des chauffages qui sont là. Là, il y a un gros chauffage, ouais. Au fuel. On n'est pas fan, mais on n'a pas d'autre moyen. Mmh. Mais c'est l'antigel, donc il se déclenche à 1 degré.
D'accord.
Si vraiment il fait 1 degré, ça se met en route pour éviter que tout gèle, quoi. Sinon, tu perds tout. Mmh. Donc là, on a. Voilà, on a plein de trucs, là, des artichauts. En fait, si on regarde ici. Tous les pots là, c'est des tomates. Ici et au milieu là, et sur la droite là-bas. Et donc la couleur des pots, c'est les variétés.
Ah oui, ok.
Parce que sinon, au bout d'un moment, tu te mélanges tout quoi.
Ouais. T'as quoi comme variété là du coup?
Nous, bah là, il y a de la Matina, de la Rose de Berne, il y a de la Saint-Pierre.
Comment t'es arrivé de l'informatique au plan
Il y a de la...
Est-ce que c'est un désir que t'as toujours eu le...
Après, il y a de la Black Cherry,
Non, alors j'ai toujours eu l'envie... jardin. Je me rappelle que j'aimais bien planter... Je me rappelle avoir planté mes premiers radis. Je me rappelle de ça. Mais je me rappelle surtout que j'avais 17 ans et je disais à mes parents, je finirai pas dans l'informatique. C'est un truc que je suis autodidacte dans l'informatique. Très jeune, j'avais commencé et tout ça. Et donc, je voulais à un moment faire un truc là-dedans, y aller à fond. Mais en me disant, je finirai pas là-dedans. Je veux un truc qui laisse une trace. Parce que je me suis toujours dit, une éruption solaire. En plus, on en parle pas mal en ce moment. Le soleil est très actif avec ses éruptions solaires. D'ailleurs, il y a eu des aurores boréales en Moselle. Là. Avant-hier ou un truc comme ça. Ouais, j'ai vu ça dans le journal. Et en fait, il y a tellement d'éruptions. Alors, je sais pas si vous savez, mais le champ, du coup, ça envoie des champs électromagnétiques qui sont arrêtés par le champ magnétique de la Terre, ce qui fabrique les aurores boréales. Et en fait, là, on arrive dans un cycle où c'est tellement puissant que ça peut réussir quand même à passer à travers. Et en fait, il y a déjà eu des gros blackouts au Canada et tout ça, à l'époque. Même en 1800, etc., où les premiers trucs téléphones, ils avaient le téléphone, les premiers téléphones à l'époque, avec les lignes et les opérateurs et tout, ils sont mis à prendre feu. Parce que en fait, ça a fait des courts-circuits et tout a pris feu. Et en fait, ça pourrait griller tous les transistors de l'électronique. Donc en fait, il y en a vraiment qui travaillent dessus en disant, si on a un truc comme en 1800, etc., ce qui est vraiment pas improbable, t'as tout l'électronique qui peut griller. Et bref, et donc jeune, je me disais, imagine qu'il y ait une éruption comme ça, t'as ton ordinateur qui grille et tout, et en fait, tout ce que t'as fait, bah...
Ouais, disparu.
C'est du vent, en fait. Et là, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, genre, non, je veux un truc qui laisse une trace. Et sans savoir quoi, hein. Et c'est après quand j'ai rencontré Ariel, et etc. Et puis, et un jour, que le projet de maraîchage, bah oui, c'est ça que je veux faire, en fait. Et donc voilà comment c'est venu. C'était, on voulait une ferme, et puis après, le maraîchage est arrivé dans les idées. Puis après, rencontre avec Nicolas Herbette de Biogrand Est, qui est un peu orienté, etc. Et formation, achat de la ferme, installation, et aucun regret. Là, on m'en fait plus dans un bureau, hein. Je pourrais plus.
Parce que le projet, vous l'avez monté ensemble avec Ariel.
Ouais.
Okay.
Ah ouais, c'est un projet commun.
Sur le site, j'avais vu qu'elle, alors, si je me trompe pas, elle était dans les chemins de fer ou quelque chose
ouais,
comme ça.
SNCF. Ouais, SNCF.
Okay.
7 ans en CDD. Ils ont enchaîné 7 ans de CDD.
Okay.
C'est pas mal, hein.
Ah, c'est pas mal, ça.
En changeant de poste en permanence. Et du coup, comme j'avais dit, elle a fait ça, elle est enceinte de Colline. Du coup, elle a arrêté. Elle a fait les deux premières années, c'est elle qui a fait le maraîchage. Et là, moi, la troisième année, installation progressive, je devais m'arrêter. De l'informatique pour la troisième année, tu dois être vraiment à fond, quoi. Et du coup, on fait, bah écoute, Ariel, bah, je reprends le maraîchage. Et c'est là que Philippe arrive et il dit, bah écoute, il faut que tu fasses des plans. Et du coup, en fait, bah, elle a pas recherché un autre boulot, direct, elle a fait ça.
Okay.
Donc, c'est là tu dis, dans tous les coups de chance qui nous ont suivis, tu vois, ce truc-là où à un moment, elle fait, bon, bah, je reprends le maraîchage, toi, il faut que tu trouves autre chose. Bah non, en fait, elle est restée là, elle a fait des plans.
Thank you. Alors là, tu as mille fois raison. D'ailleurs, je vais demander si j'ai pas encore une semaine.
Bah, franchement, t'aurais dû.
Un ciel bleu, mais plus beau que la veste, là. Bonjour.
Alors du coup, c'est la radio.
D'accord.
Radio locale associative. Pour une émission sur les savoir-faire paysans.
Voilà, et ben je vous laisse faire le tour. Il n'y a plus rien, hein, c'est plus que de l'herbe, il n'y a plus de serre, tout est parti. Donc,
Ça s'est passé comment du coup, ton installation et ta retraite?
Ah, ma retraite c'est que du bonheur.
Il voit que c'est les autres qui bossent donc.
On les cajole parce qu'il faut bien que quelqu'un finance les retraites. Hein. Non, mais je crois que ça s'est passé de manière agréable. Tu étais venu te présenter, rappelle-toi. Un jour, il faisait beau. Je suis Valentin, Milan. Je m'installe à côté en tant que maraîcher, et je voulais juste savoir si tu étais venu te présenter de cette manière, si ça dérangeait.
J'ai déjà expliqué, en fait.
D'accord.
Mais c'était même, comme je disais, c'était pas encore signé. On attendait d'avoir le...
Ouais, de faire le tour.
De faire le tour des gens, et surtout ici,
ouais.
Avant de signer le compromis. Et quand t'as dit... et du coup, tu m'as dit une phrase impactante. Je sais pas, t'en rappelles pas.
Si.
Le soleil brille pour tout le monde.
Le soleil brille pour tout le monde. Bah oui, hein.
Et c'est là que j'ai dit Ariel.
On signe. C'est pas vrai?
Bah moi, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai.
Le soleil ne brille pas pour tout le monde.
Ah si. Très certainement.
Donc voilà.
Et c'était en quelle année ça?
2017. Pendant que j'étais en formation à Courcelles-Chaussy. On a trouvé la ferme en même temps et donc...
Et comme notre fille ne reprenait pas l'exploitation... Eh bien, nous, c'était l'occasion d'arrêter. De toute façon, on est content. Et puis, en même temps, eh bien, ça a donné l'opportunité, lui, de pouvoir faire du plan maraîcher qu'on faisait, nous. Et de ce fait, eh bien, ça permet de passer aussi nos connaissances à ceux qui sont à côté, quoi. C'est un peu dommage d'avoir 47 ans de carrière et puis pas de transmettre quelque chose. Si, j'avais quand même formé des apprentis. J'ai formé des bacs pro, j'ai formé des... des apprentis, des bacs pro. Et puis, j'ai ma fille quand même qui était là avec mon gendre à l'époque. Mais après, je regrette pas, moi, de pas qu'il n'y ait pas une succession chez nous. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu partir en vacances dans les Alpes, mais j'aurais dû être au taf. Puis c'était bien qu'on arrête. Une fois qu'on a fait 47 ans ce métier, et puis qu'on a travaillé en couple pendant 32 ans, ma femme a quand même pris sa retraite à 70 ans. Je crois que c'était pas mal.
C'est pas mal.
Moi, à 65, donc il était temps qu'on arrête. On était fatigués quand même. Puis on est content d'avoir des jeunes qui s'installent à côté, et puis pouvoir leur transmettre... nos connaissances, voilà, c'est tout. C'est vraiment une joie, c'est un plaisir. Hein. Et surtout qu'ils sont, ce qui est formidable, c'est qu'ils sont à l'écoute et ils mettent en pratique. Non, parce que en général, on a tous, après nos expériences qu'on veut faire, qu'on veut réaliser, puis on n'écoute pas toujours, hein, des fois les conseils, bon, on verra bien. Et puis, mais là, vous mettez vraiment en pratique ce qu'on vous transmet.
Oui, on teste quand même, mais on part sur le fait que ta méthode marche, donc on fait ce qui marche, et puis après on teste un peu sur le côté pour trouver notre méthode à nous.
Bien sûr, puis adapté.
En fait, à 98%, ça c'est votre.
Mais après, forcément, de toute façon, ça changera de toute manière. L'établissement là-bas n'est pas conçu comme celui d'ici, et chaque exploitation est différente l'une de l'autre. Alors, il y a un savoir-faire qu'on a, et après, il y a aussi l'expérience de l'endroit où on est qui doit s'adapter. Et c'est ce qui est en train de se passer, tranquillement. Mais la base, ben voilà, on donne les bases, puis après, ils font ce qu'ils veulent, quoi, c'est sûr. Mais tout ce qu'on peut donner...
C'est une grosse base.
Ben, ça, voilà, quoi, je vais dire. On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des patrons et des maîtres super qui m'ont transmis quelque chose. Comment je peux leur rendre un témoignage? Ben, c'est tout simplement en faisant passer la balle à suivant, quoi.
C'est
tout, hein. C'est comme ça que ça doit se faire, normalement.
Non,
et puis le courant passe bien. C'est une relation d'amitié qu'on a, plus que... Voilà. Et puis même s'il y avait eu de la suite ici, il y aurait eu matière à s'entendre. De toute façon, il y aurait plutôt plus d'entraide qu'autre chose. En plus, il fait confédération paysanne, donc c'est une entraide. Pour ma part, je suis content d'avoir arrêté parce que climatiquement, ça devient compliqué. Et au niveau de nouveaux insectes et de nouvelles maladies, ça devient compliqué. Et surtout que moi, j'étais passé de ce qu'on m'avait enseigné du NPK et puis du produit chimique à la lutte biologique intégrée. Il a fallu commencer à désapprendre ce qu'on m'avait enseigné depuis des années et des années. Et puis, apprendre à perdre de la marchandise et à travailler les auxiliaires. Et ça, c'est compliqué. Puis après ça, il y a tous les paramètres qui sont compliqués maintenant. Au niveau administratif, au niveau des comptes à rendre, au niveau de... On est de plus en plus dans un étau partout. Non seulement, hein, des aléas du climat, des aléas de la production, plus les aléas de l'administration à côté. C'est pas facile, quoi. Ça devenait à un moment donné, on dit bon, pour moi, j'arrête au bon moment en tout cas. C'est vrai. Après, il y a des courageux comme vous, mais de toute façon, il en faut. Il faut bien qu'il y ait des gens qui nourrissent la planète.
Il faut manger.
Et vous étiez en bio aussi, c'est ça ?
Alors, moi, j'ai pas demandé de label, mais je suis passé en lutte biologique intégrée, et puis avec mes clients, je leur disais.
Okay.
Parce que je voulais pas rentrer dans le système du label.
Ça coûte cher en plus, un label.
Ah, puis c'est comme ça. Alors après, j'établissais un climat de confiance. Et si vraiment je disais, oui, ben, j'ai fait juste un traitement, ben, j'étais obligé de faire un traitement fongique éventuellement, je le disais. Mais sinon, je disais, ces produits n'ont rien dessus. Voilà. Je travaille en culture biologique intégrée, il n'y a rien dessus. Les gens me faisaient confiance. Mais pour être honnête, on a mis près de 80 ans pour en arriver où ce qu'on en est. On ne peut pas du jour au lendemain arriver à faire à 180 degrés et revenir à, il y a 80 ans en arrière. Ça doit se faire progressivement. C'est pour ça qu'il y a une prise de conscience qui fait. Le bio, c'est une prise de conscience. D'arrêter de faire tout et n'importe quoi et de d'empoisonner le monde qui est autour de nous. Hein, il faut reconnaître ça. Maintenant, on a les certitudes que énormément de maladies que nous avons proviennent de la qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, notre hygiène de vie et puis de ce qu'on respire. Donc on est responsable des décisions qu'on prend quand on fait de la production puis qu'on nourrit le monde. Ça c'est clair.
On est où, Ariane ?
Dans
le tunnel
derrière.
Tunnel à plomb ? Ah là ?
Non, là.
Voilà. Allez, au tunnel à plomb.
Ok.
Donc ouais, c'est la table là qui était encore chez Philippe il y a une semaine.
Ok.
Et puis on a ramené ici, comme ça on peut...
Je prends des sons de travail. Je vais pas vous embêter, mais...
Depuis janvier 2024, la France connaît ce que l'on nomme communément une crise agricole. Cette mobilisation a touché plusieurs pays de l'Union européenne. Elle révèle la fin d'un modèle agricole hérité des années 1960. Elle s'inscrit dans un contexte contradictoire entre crise écologique et volonté sociétale d'y répondre, et la mondialisation qui, pour citer les économistes Thierry Pouche et Aurélie Trouvé, dans un article du Monde, attise les tensions concurrentielles et pousse les agriculteurs à baisser toujours davantage leurs coûts de production que des normes environnementales et sanitaires peuvent enrichir. Normes qui, bien souvent, ne sont pas respectées par des pays tiers. Elle est l'expression d'une mondialisation arrivée à ses limites. La mobilisation agricole vise la baisse de leurs revenus, la hausse des charges, la concurrence déloyale permise par les accords de libre-échange, la complexité des réglementations et des contraintes administratives. Les principales revendications et mobilisations sont émises par deux syndicats opposés, celui de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et celui de la Confédération paysanne. La FNSEA est le premier syndicat agricole français au niveau des chambres d'agriculture. Ses revendications soutiennent principalement l'agrobusiness et l'agro-industrie. Le président actuel, Arnaud Rousseau, est notamment le président du conseil d'administration du groupe Avril, un groupe agro-industriel. La Confédération paysanne est un syndicat d'agriculture paysanne depuis 1987. Elle s'oppose au modèle agricole industriel ainsi qu'à la domination économique de quelques structures hyper-productives et hyper-concentrées. Pour répondre à cette crise agricole, le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé début mars un choc de la simplification. Or, ces mesures répondent aux revendications de la FNSEA, mais non à celles de la Confédération paysanne. Elles laissent apercevoir une absence de simplification ainsi qu'un recul inquiétant de la protection de l'environnement. Favorisation de l'élevage industriel, irrigation avec une volonté de faciliter les ouvrages de stockage de l'eau, comme les controversées méga-bassines, recul sur la protection des haies et des zones humides. Suite aux manifestations, le plan Ecophyto de réduction des pesticides avait notamment été mis en pause. Le syndicat de la Confédération paysanne s'oppose à ces propositions et axe sa mobilisation autour de la question du revenu paysan. Celui-ci comprend l'instauration de prix planchers au niveau du prix de revient, coûts et rémunération du travail, incluant les cotisations, pour tous les produits agricoles via une loi contraignante et efficace pour le revenu paysan.
Et la Confédération paysanne, ça va avec ça? Enfin, je veux dire, tu envie de t'appliquer dans un syndicat paysan
La Confédération paysanne, à l'époque, j'ai été sur le site du National pour voir qu'est-ce qu'ils disaient du bio. Et leur position, c'est... la Confédération paysanne n'est pas un syndicat d'agriculteurs bio, mais pousse les gens à aller vers le bio, et sans les obliger, mais en disant le bio c'est mieux, donc on doit aller au maximum vers ça. Et donc voilà, et non, après dans la Confédération paysanne, c'est le fait aussi de savoir se remettre en question. J'ai l'impression quand même dans le conventionnel, c'est on a toujours fait comme ça, les parents faisaient comme ça, pourquoi on ferait autrement? Et là, vraiment, c'est de se dire des fois, peut-être que je fais une erreur. Et on avait un ami où on habitait avant, et je me rappelle quand je lui parlais du sol, il me disait, avec la fertilisation du sol et tout, il me disait, ce que disait Philippe Taylor, NPK. Et à l'époque, quand je commençais à me renseigner, je fais NPK, et en fait, eux, c'était les engrais, quoi. C'est nourrissaient directement les plantes. Ouais. Et quand, en fait, aujourd'hui, on voit avec les nouvelles études, quand j'ai commencé ma formation de maraîchage, la prof qui nous faisait étude du sol nous a dit en tout début, alors sachez que sur le sol, on est seulement en train de comprendre. Le début, quoi. En fait, on est en train de comprendre qu'on connaît rien. et donc là, on découvre des trucs, on découvre des fonctionnements quand même avec tous les champignons dans le sol, etc. Et quand à un moment, on dit, ok, bah, en fait, on est en train de comprendre que ça marche comme ça, de continuer comme on faisait avant, quand on sait que ça détruit ça, on fait, mais on est bête, en fait. Genre le labour, on sait que c'est hyper mauvais. Donc après, oui, ça fait changer toutes les techniques et tout. Et c'est vrai que quand on a des prêts derrière pour des grosses fermes, c'est peut-être dur aussi de changer de technique. C'est un risque. Alors moi, je le ferais quand même sur 5%. Et puis dire, je teste sur 5% et si c'est bon, j'agrandirai tout. Bon, il y en a qui, voilà, ils veulent pas prendre de risques. C'est dommage. Mais ouais, du coup, je pense que moi, ce que je vois, c'est la Confédération paysanne. En tout cas, on remet en question les choses. On essaie toujours d'aller vers le mieux, de faire mieux, d'avoir le moins d'impact, de faire attention à l'environnement, faire attention aux gens, faire attention... Voilà, on n'est pas tout seul, hein, on n'est pas le roi sur ses terres et à faire ce qu'on veut. On a des voisins, on a les amis, nos insectes qui sont là, et qui sont hyper importants. Ça aussi, on le découvre... Bon, il y en a, le père d'Ariel, ça fait des années, qui le dit, il y a des paysans et tout, qui se faisaient rigoler au nez. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a plein d'études qui le montrent... Merde, arrêtons de les tuer, quoi. C'est la vie, quoi. C'est notre vie. Donc ouais. Et je pense que c'est le seul syndicat qui pousse ces valeurs-là, d'autonomie, de toutes ces valeurs vraiment qui me tiennent. Bah, en fait, ils les ont. Et bah, à la conf, je suis co-secrétaire général de la conf des Vosges. Donc du coup, mon boulot, c'est un peu de... Mais c'est d'essayer de tenir des objectifs. Là, moi, par exemple, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre d'adhérents et aussi les élections qui arrivent en janvier. Et donc, du coup, d'aller voir les paysans. Il y a 50% d'abstention, plus ou moins. Donc, aller voir les paysans et leur dire l'utilité d'aller voter, à quoi ça sert, pourquoi. Parce qu'il y a un impact très local, ça se joue à la Chambre d'agriculture. Donc, là, l'idée, c'est qu'on soit plus représenté... à la Chambre et de pouvoir nous faire entendre nos valeurs, parce que du coup, l'autre côté, il y a la Fédé qui y est et qui fait passer toutes ces valeurs à elle et que nous, on cautionne pas, et qui est celle de l'agro-industrie et qu'on est complètement contre, quoi, qui rend... C'est ça qu'on... Et on a du mal à comprendre, hein, pourquoi des personnes vont à la Fédé alors que c'est de l'agro-industrie qui se fait de l'argent sur le dos des paysans. Mais après, des fois, c'est aussi de père en fils, les parents y étaient, donc les enfants y sont, et puis ils sont assez forts aussi, de créer les JA, les jeunes agriculteurs y vont parce que c'est la fête, en fait, il n'y a aucun côté politique dedans, et en fait, bah, comme ça, ils y vont, il n'y a pas de politique, mais en fait, derrière, bah, si, c'est de la politique, mais en fait, ils n'en parlent pas trop, et comme ça, c'est la fête, juste, on se retrouve entre jeunes. Et puis derrière, bah, en fait, c'est les jeunes de la Fédé, et puis en fait, c'est politique et c'est l'agro-industrie. Et puis,
ouais. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on nous laisse croire qu'il n'y a pas d'autre alternative, en fait. Que les autres alternatives ne sont pas viables.
Oui, c'est ce qu'ils veulent faire croire.
Ouais.
Mais pourtant, moi, je suis en cinquième année.
Ouais.
Je viens de terminer mon installation aidée. Donc là, j'ai fait le point avec la comptable, et en fait, je gagne plus qu'un SMIC en quatrième année. Pourtant, je suis sur 0,5 hectare, et donc pourquoi avoir des hectares et des hectares? Au lieu d'avoir un maraîcher qui s'en sort pas sur 50 hectares en maraîchage, pourquoi pas mettre plein de maraîchers sur 0,5 hectare? Et on arrivera à nourrir plein de gens, parce que On produit beaucoup quand même. Donc, d'ailleurs, c'est ça la conf dit. Installer 1 million de paysans. Eh ben on peut, mais du coup pour ça il faut arrêter d'agrandir les fermes et créer plein de plus petites fermes et... qui sont viables. Elles sont viables, ça marche, il faut arrêter de dire le contraire.
T'es confiant pour l'avenir de l'agriculture paysanne ?
Alors je suis confiant dans le sens où je sais que les autres, il y en a plein qui vont se casser la figure avec le temps. Crise de l'énergie, ils sont dépendants des produits qui sont dépendants des énergies. Et on l'a bien vu là avec la guerre en Ukraine, hein, tout a flambé avec le prix de l'énergie. On sait que les pics pétroliers qui arrivent, on sait que la crise de l'énergie qui arrive, on le sait, c'est même pas à en douter. Et donc, c'est sûr qu'il y a des fermes qui ferment, c'est sûr. Donc, et derrière, ceux qui arriveront à s'en sortir, c'est ceux qui sont le moins dépendants, et donc les petites fermes paysannes sont moins dépendants à toutes ces énergies. Moi, aujourd'hui, on me double ou triple le prix du fuel, moi, je m'en sors aussi bien.
Ouais, l'autonomie, c'est quelque chose que... Enfin, qui est vachement centrale dans ta
Comme on disait tout à l'heure, hein, les semences. Alors nous, il y a juste un truc qui nous dérange, c'est le terreau. On est hyper dépendant pour le terreau. Quoi. Donc c'est un truc qu'on va devoir résoudre, hein, je sais pas comment, parce que le terreau, c'est vrai que c'est un métier. On est dépendant du terreau et ça me va pas. Et je sais pas comment faire. Alors je sais qu'en Bretagne et tout, je crois, j'avais lu des trucs comme quoi ils travaillaient sur tous des processus pour fabriquer un terreau, etc. Je sais plus c'est où, mais je crois que c'est par là-bas. Et je me dis, il faudrait qu'à un moment, il y ait un truc qui se mette en place, quoi. Pour être un truc plus local, et... parce que nous, ça vient de... C'est une boîte allemande, et je sais même pas d'où ça vient, je suis assez... pas fier de ça. Mais bon, à un moment, on peut pas, voilà, on est...
C'est en bio aussi
C'est en bio. Ah oui, tout est bio, de toute façon, donc le terreau est bio. La vente, on est autonome, vente directe, pas d'intermédiaire, donc on fait nos prix, donc... C'est vrai que là, avec les trucs... Les manifestations, là, c'était sur le revenu paysan, quand même, même si la Fédé a réussi à... Et la coordination rurale a réussi à le dévier vers les produits phyto et tout, qui était même pas le problème.
C'était pas l'enjeu principal, quoi.
Et surtout en croyant que c'est ça qui va régler leur problème, alors que pas du tout. Et donc nous, voilà, on a manifesté à Épinal, etc. Mais c'est même pas pour nous, parce que nous, on fixe nos prix. Hein, donc, mais c'est pour les autres qui sont en circuit long et... Dire d'arrêter d'importer des produits à des prix...
Tu peux expliquer un peu ce que c'est rapidement le revenu paysan, en tout cas l'idée qu'il y a derrière.
L'idée, en gros, c'est de se dire comment un paysan... Donc on va prendre l'exemple du mouton, parce que je connais... On m'a expliqué un peu ça. Donc le mouton qui est fait ici, dans les coins, vendu en magasin, il est vendu à 12 euros le kilo. Le mouton qui vient de Nouvelle-Zélande, entre 5 et 6 euros le kilo. Sachant qu'il y a eu tout le transport, etc. Donc à un moment, quelqu'un qui va faire ses courses, il va acheter celui de Nouvelle-Zélande à 5-6 euros, et du coup celui qui est juste à côté, mais pour... parce que oui, on a une sécurité sociale, qu'il faut des retraites, qu'il faut financer, etc. Donc c'est vrai que le coût du travail coûte un peu plus cher. Donc si on importe des choses de pays, de Turquie, etc., où les conditions de travail sont moindres, moins bien payé, pas de couverture, etc. Donc à des prix, il y aura des pâquerettes. Après, ça arrive en France, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, en France, pour faire, imaginons, 1 kilo de carottes, ça coûte combien ? Plus donc le prix de fabrication, plus le revenu du paysan, ok, ça fait un prix minimum de autant. Et l'idée, c'est de se dire, aucune carotte rentre sur le territoire français en dessous de ce prix-là. Donc, comme ça, pour pas faire de concurrence déloyale. Pourquoi faire venir du bœuf du Canada ou d'Amérique du Sud à des prix cassés, hyper polluants, et quand on en a tout autant chez nous, quoi. Et à un moment, je crois que tout le monde est fier de notre système de santé qui est en train de s'effondrer, de retraite qui est en train de s'effondrer. Et pour le soutenir, voilà, il faut acheter la viande locale et qui coûte le prix réel, quoi.
En attendant, on a tué les sols. Et puis les plants sont carencés, les animaux mangent des plantes carencées, les légumes se nourrissent de sols carencés, dans les sols carencés, les fruitiers aussi. Et aujourd'hui, nous, on est tous carencés parce qu'on mange d'une alimentation carencée. On va chercher plus loin les maladies, c'est mécanique. Hein. Et c'est une réalité. Hein. Je simplifie comme ça, on l'explique. Mais c'est une réalité. Quoi.
D'ailleurs, le bio, c'est nourrir le sol pour nourrir les plantes.
Oui. Moi, j'ai réappris à découvrir...
Conventionnel, c'est nourrir les plantes.
La biologie du sol, tard. Hein. Encore une fois, désapprendre. C'est plus dur que d'apprendre.
Et c'est pour ça que je dis aussi, nous c'est facile de s'installer en bio. Un conventionnel qui change,
ouais.
Il doit tout déapprendre. Moi j'ai appris en bio, j'ai commencé en bio, donc j'avais pas à démolir une façon de faire. Et quelqu'un qui est en conventionnel et qui doit changer, je comprends aussi qu'il y ait une peur. Et qu'il y a...
Bah oui, parce qu'on a fait des investissements sur nos bases de connaissances. Et c'est pour ça que l'agriculture est coincée et que les gens ont peur. Mmh. C'est surtout ça, c'est parce qu'ils ont... Ils ont fait des investissements, ils ont misé là-dessus, sur la façon de travailler qu'ils ont, un schéma. Il faut dire, un schéma, il est tout faux, les gars, il faut changer. Oui, mais bon, il faut que j'ai des banques derrière, j'ai des personnes qui veulent des résultats derrière. Eh bien, il y a des risques à prendre, et ça, c'est une remise en question. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
Et si c'était aidé, par contre, il y a plus de gens qui le feraient. Parce qu'il y en a plein, on voyait, là, pendant les manifestations des agriculteurs, il y a déjà eu... J'ai lu un truc entre quelqu'un de la Confédération Paysanne et quelqu'un de la FNSEA. Et en gros, celui de la FNSEA, il dit « Mais moi, je veux bien aller en bio. Hein. Mais si on me garantit que je gagnerai autant que maintenant. » Le problème, c'est le salaire, en fait. Et ils sont prêts à abandonner les produits. Du coup, c'est des aides, c'est de l'accompagnement, etc. Si on ne met pas ça, bah...
Alors, il y a deux discours. Tu as le discours des politiques, ouais. Puis tu as le discours de la réalité d'économiste, et qui sont incompatibles. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, qu'on redonne l'autorisation d'utiliser du Roundup et certains produits de traitement. Parce qu'il y a l'économie qui est derrière, c'est tout.
C'est chou chinois, navet, salade, chou rave, jambati. Et les petits pois, le mesclun, ouais. Donc ça, c'est que... Et puis après, il y a les courgettes, les concombres que je dois repiquer. Mais vu que là, il prévoit du négatif, j'attends ce week-end que le week-end arrive, les températures augmentent et j'ai pas envie de prendre de risque de les mettre et que clairement, on ne sait jamais que ça descende à plus que moins 2, moins 3 et que...
Elles sont belles.
Ça les ralentit, donc voilà.
Les racines sont dures à travers, quoi. Donc dans toutes les techniques que Jeannette et Philippe nous expliquent,
Les tomates, on a pu arroser nos tomates nous-mêmes depuis cette année. L'année dernière, on se faisait encore disputer. Parce qu'ils ont une technique vraiment où si on donne trop à boire aux tomates, en fait, elles montent. Donc il faut regarder la météo par rapport au temps du lendemain, etc. Il faut pas qu'elles aient trop à boire. Donc c'est là, on les a bien arrosées, parce qu'on va les mettre en vente. Donc on les arrose pour partir sur les marchés et tout. Mais si on regarde les autres, on voit que la motte, elle s'est décollée, quoi. Elle manque d'eau. Oui. Et si on regarde, tout est sec, là. On voit juste, là, c'est un peu foncé. Donc ça suffit. Donc là, celle-là, là, il y a pas de soleil, si peut-être un peu de soleil demain. Donc peut-être qu'on va redonner un tout petit coup d'eau. Mais on voit, c'est tout sec, quoi. C'est un bloc sec. Et il faut pas donner plus. Si on donne plus, elle va monter. Et nous, on veut pas qu'elle monte, on veut qu'elle grossisse. Pour avoir un gros tronc. Donc ça, voilà, c'est pour les tomates. Mais après, il y a toutes les petites techniques pour tous les trucs.
Et les techniques, ils vous les ont transmises à l'oral ou il y avait un document ou...
Non, c'était à l'oral. Ouais. C'était à l'oral. Bah, en fait, la première année... nous, on avait rien du tout. Bah, enfin, c'est pas ça. Et quand Philippe a dit à Ariel qu'il fallait qu'on parte dans les plans, c'était à l'automne. Et du coup, en gros, on devait commencer le printemps. On fait, ouais, mais on n'est pas prêt, on n'a rien. Et du coup, ils nous ont dit, bah, vous venez produire ici. Donc, en haut, on l'a bougé quoi, il y a une semaine. Il y avait encore une table de repiquage là, normalement. Et c'est ici qu'Ariel venait travailler. Et du coup, on n'avait pas de table non plus chauffante et tout, donc on les mettait sur leur table chauffante à eux. Si, on avait déjà celle du maraîchage, mais du coup, on mettait sur les leurs parce qu'on n'avait pas assez pour les plans. Et du coup, eux, ils étaient là parce que du coup, c'était l'année de la retraite, donc ils traînaient beaucoup ici, puis ils étaient là, ils font « Alors, tu fais comme ça, tiens, je te montre comment tu repiques, je te montre aussi. » Ils nous invitaient à manger le midi chez eux, et puis on discutait « Ah oui, alors ça, tu fais à telle époque, ça, tu fais comme ça. » Et en fait, du coup, ils étaient tout le temps là, donc... Il y avait toujours un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour savoir si on faisait pas une erreur, etc. Enfin, surtout Ariel. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur la ferme, la partie plan, c'est plus important que le maraîchage. Au niveau chiffre d'affaires, c'est le plus gros que... C'est un truc vraiment qu'on aime bien.
Mais c'est des techniques très différentes, du coup, parce que donc, c'est dans des pots directement, c'est pas en plein champ, quoi.
Il y a un truc qui nous énerve, c'est les pots en plastique. On veut sortir de ça. Donc on se renseigne, on a regardé pour les pots en fibre de bois, etc. Mais en fait, ça va pas. Donc il y en a qui font en motte, mais le problème, c'est que nous, on repique tout à la main. Quand tu fais une motte, tu peux pas repiquer dans une motte, quoi. Et le fait que ce soit repiqué, il y a vraiment de la qualité en plus dans les plans, la façon dont on le fait et tout. Donc on doit repiquer. Et donc, aujourd'hui, on est bloqué, mais on veut trouver une solution. On sait pas encore. Donc on demande aux gens de nous ramener les pots. Et on les réutilise d'année en année. Donc, mais bon, c'est... C'est pas encore le top, parce que le top, c'est zéro plastique, quoi. Donc là, c'est la troisième année, on donne tous ces trucs-là, donc on fait comme on nous apprend, et c'est vrai qu'avec les couleurs, c'est hyper pratique, quoi. On voit qu'elles ont soif, celle-là. Les feuilles, elles se mettent en sécurité, elles s'enroulent. Comme ça, elles ont moins de surface d'évaporation. Okay. Mais bon, on sent que c'est comme humide, donc ça... Se mettre en sécurité, c'est pas mort, quoi. Donc,
Et vous êtes fier de ce que vous faites ?
Hein ?
Vous êtes fier de ce que vous faites, Ariel et toi ?
Oh, de ouf !
Ouais,
bah là, les plus beaux trucs, hein, comme toi, t'as adoré que je te dise « Putain, mais ton truc, c'est les pieds sur terre. Hein. » Ah, t'es trop content. Et bah nous, c'était genre, par exemple, ce week-end, hein, quand t'as les gens qui arrivent, font « Putain, votre stand, il est vraiment beau. Ah, vos plans sont beaux. » Tu vois, c'est quand les gens te disent ça... Comme Ariel dit, elle fait, mais nous on le voit plus parce qu'on est trop dedans, c'est normal pour nous. Donc c'est des fois c'est vrai qu'on a besoin que ce soit les gens extérieurs qui viennent te le dire. Mmh. Et quand on a plein qui te le disent d'affilée et tout.
En gros, bah il n'y a pas de porte.
Donc c'est ici qu'on vient faire endurcir les plants. En gros, quand ils sont. Donc nous on les fait dans des terrines, là à peu près 500 graines. Dès qu'ils hop, ils sont assez grands, on les repique. Et là dans des pots pas de 12, on en met 12 dedans. Mais si on les laisse dans les tunnels, en fait, ils sont trop chauds, etc. Donc ils vont se mettre à monter. Donc en fait, on vient les mettre ici où ils sont en plein vent, mais abrités comme du tunnel, mais sans porte. Et comme ça, ils se renforcent en fait. Et c'est là que du coup, on va avoir un plan qui va beaucoup plus résister au froid et tout, parce qu'en fait, on l'habitue au froid.
Alors que si on les laisse dans un tunnel bien chaud et carrément quelqu'un vient dehors, il repique au jardin.
Ce que vous y mettez, quoi. Ça vient de vous, c'est des plantes, c'est tout un mélange de vous et des plantes, quoi, aussi.
Bah ouais, parce que bah t'es là, tu fais attention aux plantes pour qu'elles soient le mieux possible, une meilleure terre possible, parce que, comme on parlait tout à l'heure avec Philippe, contrairement à certains conventionnels, Nous, on nourrit le sol pour nourrir les plantes, donc le sol est super important, donc on fait attention au sol, et pour essayer d'avoir vraiment les légumes les mieux possibles. Puis à la fin, on les récolte, on les vend, et c'est vrai qu'il y a souvent même des fois un stress au moment de la vente. Dire, est-ce que le radis-là, il va pas être creux, il va pas être piquant.
Et donc vous êtes en bio?
Ouais, totalement. Même les plants, même les fleurs.
Même les plants et les fleurs.
Je crois qu'il y a une seule fleur qui est pas bio, parce qu'on a impossible de trouver la semence en bio.
Depuis le début, donc vous êtes en bio
Ouais. Alors en fait, on a acheté en 2017, on a commencé en 2020, on a réussi à gagner un an sur le fait que les terrains, machin bidule et tout, donc en fait on a commencé à produire direct en bio.
Et vous saviez que vous vouliez faire du bio?
Aujourd'hui, sincèrement, si là vraiment quelque chose fait qu'en fait on est obligé de mettre un produit dans le sol, et qui est pas bon, etc., parce que sinon je crois que je préfère arrêter. Mm-hmm. Vraiment, je n'arriverai pas à mettre le produit.
Crève-cœur.
Ah non, je ne pourrais pas.
Ouais.
Je ne mettrai pas de produit. Mm. Bon, ça n'arrivera jamais qu'on soit obligé. Hein. Mais...
C'est pour le sol, c'est pour le vivant, c'est pour les clients, c'est...
Bah, c'est pour tout. Quand tu vois que tu perds une ruche au moment où ils mettent les insecticides, tu fais bon, voilà. Pour le... Quand tu manges et que tu sais que potentiellement, il y en a dedans. Souvent, il y en a, c'est déjà arrivé des personnes qui disent « Vous êtes marrant avec votre bio, là. » Du coup, j'ai envie de leur répondre « Bah écoutez, je vous passe une salade bio, et si vous voulez, je vous passe une petite pipette de produit, vous avez qu'à le mettre de sucre, ça c'est conventionnel, il y a le produit dedans, et puis... Mmh. » Voilà, on sait au moins qu'il y a deux... Alors après, on peut en avoir avec la pollution extérieure et tout, mais tu te dis, c'est vraiment... Là, on peut pas faire autrement, c'est...
Et tes parents, ils avaient un jardin aussi, ou tes grands-parents?
Pas vraiment.
Non, c'était...
J'ai appris récemment... Alors mon père, qui est pas très sentimental et tout, hein, mais mon père m'a dit... Là, il y a... La dernière fois qu'on les a vus, ton grand-père était vraiment fier parce qu'il adorait jardiner, donc s'il savait que vous faisiez des plants, il aurait été vraiment fier. Mmh. Mon père, je sais qu'il est fier de moi, etc., mais il l'a jamais dit. Mmh. Mais je le sais. Ça se voit. Et là, c'est la première fois qu'il verbalisait un truc comme ça.
C'est précieux.
En parlant de son père à lui, mais il disait, ouais, il aurait été vraiment fier.
Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé avec Aline, stagiaire à la Confédération Paysanne et à l'Ardéar des Vosges. Vous pourrez retrouver l'affiche dédiée à la ferme du Petit Paris sur le répertoire des savoir-faire paysans. Merci à Ariel et Valentin pour leur accueil. Bonne journée ou soirée sur Radio Guémozo.